pas tout à fait à Genève, mais en Suisse, se passe la rencontre avec Jean-Luc Godard, à qui j'ai eu affaire il y a quelques temps.
À Rolle.
Ouais. À Rolle, sous les bords du lac Léman.
Non. Voilà. Là où il travaille et là où il prend ses repas dans une pâtisserie que ne fréquentent que les vieilles dames qui n'ont jamais vu un de ses films.
Oui, tout à fait, qui ne savent même pas qui il est, qui est cet ermite. Et voilà, je me suis d'ailleurs toujours étonné pourquoi il avait choisi de vivre dans cette ville-là. Et quand j'ai voulu lui poser cette question, il l'a balayée en me disant qu'elle n'avait pas d'intérêt. Néanmoins, elle est assez significative. Enfin, ce choix est assez significatif d'aller vivre dans cette ville. Oui, voilà. Et alors là, à propos de Jean-Luc Godard, je raconte aussi un épisode très réel de mes relations avec lui à l'occasion d'un film que j'ai fait sur lui et avec lui. Et de certains propos qu'il a tenus, qui n'ont pas été gardés dans le film, qui d'ailleurs il y en a qui ont été filmés, qui n'ont pas été gardés dans le montage, il y en a d'autres qui n'ont même pas été filmés puisque c'était off. Voilà, mais auxquels j'avais envie de répondre. Parce que dans ce film, qui s'appelle « Morceau de conversation avec Jean-Luc Godard », en fait, ce n'est jamais moi qui converse avec lui, mais des interlocuteurs qu'il a choisis.
Jean Arbony, par exemple.
Jean Arbony, par exemple, Dominique Paini, André Labarthe, les Straub, enfin bon. Et moi, je suis un filmeur muet. Et j'avais envie...
De passer au parlant.
De passer au parlant, voilà. D'ailleurs, dans ce film, Jean-Luc Godard dit une chose assez amusante à propos du cinéma muet. Il dit, on l'a trop vite obligé à parler. Il aurait fallu le laisser muet plus longtemps pour qu'il fasse son enfance d'enfant qui ne parle pas encore. Mmh. Et moi, je me suis trouvé, en tout cas, en tant que filmeur... muet, puisque je ne voulais pas intervenir, que je ne saurais pas faire les deux choses en même temps, parler et filmer, m'occuper de mots et d'images, ce sont deux choses que je ne peux faire que séparément. Mais il est arrivé un temps où j'ai eu envie d'être le parlant, de donner une réponse du muet au parlant, puisque dans le film, c'est lui qui parle tout le temps, d'un bout à l'autre du film, pendant 2 heures.
Et c'est une réaction de Philippe Solers, après avoir vu votre film, qui vous met un peu la puce à l'oreille. Solers vous dit « ça sent la mauvaise vie ».
C'est vrai, j'ai proposé à Solers de participer à une séance de rencontre avec le public après la production du film. D'autres personnes l'ont fait, différents amis, spécialistes de cinéma ou autres. Ou Jean Nouvel, par exemple, est venu faire une séance à partir de son lieu qu'il architecture. Et Philippe m'a dit « non, 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 ça ne m'intéresse pas, ce personnage ne dit que des bêtises, et d'ailleurs ça sent la mauvaise vie ». Et d'un certain point de vue, il a tout à fait raison, ça sent la mauvaise vie parce que, voilà, ça sent un peu l'amertume, la rancœur, l'insanité même de certains propos, et puis vivre dans cette ville... qui est vraiment la ville où il y a une pâtisserie avec des vieilles dames, un bord de lac comme dans une carte postale. Et sur le coup, je me suis dit, Philippe Solers, oui, qui lui vit à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, tout ça, voit ça de ce point de vue-là, mais il avait tout à fait raison. Il y a de la mauvaise vie chez Jean-Luc Godard aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne l'ai pas connu avant. Mais par exemple, il est très étonné que ses films, les films qu'il fait aujourd'hui, n'aient pas le même accueil, n'aient pas la même diffusion, le même succès que ceux qu'il faisait à l'époque où il travaillait avec Brigitte Bardot, par exemple, pour Le Mépris, ou avec des acteurs importants. Il y a de ça, en effet. Il y a de la mauvaise vie.
Il y a une clé pour comprendre cette mauvaise vie de Jean-Luc Godard?
Je crois qu'il est à la fois, et il en est conscient, l'objet d'un culte universel. C'est probablement aujourd'hui l'artiste le plus cité, le plus reconnu, toutes disciplines confondues. Il est ce qu'a été Picasso à son époque. Donc il ne peut pas l'ignorer. Quand on lui fait remarquer, il hausse un peu les épaules. Et en même temps, il y a chez lui le désir de s'identifier à la figure de l'artiste malheureux, incompris. Il dit « je suis connu, mais pas reconnu ». Je suis connu et pas reconnu. Et d'ailleurs, dans le film, il s'identifie d'une façon assez pathétique, qui lui tire les larmes, à la figure d'un mathématicien, voilà, qui après avoir été éconduit par l'Académie des sciences à Paris, repart dans son pays, en Scandinavie, voilà, après avoir été totalement incompris, alors qu'aujourd'hui un prix existe qui est donné à le prix Abel. C'est le nom de ce mathématicien. Donc Godard s'identifie avec beaucoup de morbidité, je dirais, à cette figure de l'artiste mal aimé et mal compris. Ce qui fait que ça ne lui fait pas plaisir, évidemment, quand on lui dit qu'il est l'objet d'une vénération presque religieuse.